Bonjour à tous et à toutes, et bonjour Titouan qui m'accompagne aujourd'hui pour présenter cette première émission de La Voix des Conchois en cette rentrée 2025.
Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Clémence. Quel plaisir d'être là avec toi aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre. Date importante, c'est la journée de lutte contre les violences intrafamiliales. Ce sujet, malheureusement toujours d'actualité, nous touche toutes et tous. Derrière les chiffres, il y a des vies, des familles, des histoires, souvent marquées par la peur, le silence, mais aussi et surtout ceux qui trouvent la force et le courage de parler. Tout au long de cette émission, nous allons comprendre, informer et sensibiliser.
En effet, Clémence, au programme de cette émission, des interviews, des échanges et des conseils pour agir et accompagner les victimes. Parce qu'en parler, c'est déjà un pas vers la solution. Alors restez avec nous. Tout d'abord, nous allons commencer par un micro-trottoir. Yenaël, Lucas et Jules sont allés à la rencontre de trois adultes du collège et leur ont posé des questions.
Nous avons interrogé Monsieur Lemonnier, Madame Ringuenet et la prof de latin.
Bonjour, nous sommes des journalistes du Club Média. Nous voudrons vous poser trois petites questions sur les violences intrafamiliales. Première question, comment définirez-vous les violences intrafamiliales ?
Alors, les violences intrafamiliales, ce sont des violences qui s'exercent dans le cadre de la famille. Donc, la famille qu'il faut prendre dans un sens large, c'est-à-dire, bien sûr, la violence qui peut être subie par des enfants. Des violences parfois entre frères et sœurs, c'est de la violence intrafamiliale, des violences entre les parents, entre eux. Et de la violence également, si on prend les choses un peu plus larges, qui peuvent s'exercer contre des personnes plus fragiles, des personnes vulnérables. Donc les enfants, je l'ai déjà dit, mais ça peut être aussi des personnes âgées, par exemple, qui peuvent être au domicile, qui peuvent subir des violences. Et ces violences peuvent être fréquentes, régulières ou bien occasionnelles. Il peut y avoir un fait grave de violence qui peut se faire à l'occasion d'une fête de famille, par exemple, et ça rentre dans le cadre des violences intrafamiliales. Donc c'est vraiment prendre en compte toutes les violences qui peuvent s'exercer au sein de la cellule familiale.
Qui peut-elle concerner ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça s'exerce a priori, malheureusement, plus facilement sur les personnes qui sont vulnérables, donc les enfants, les personnes âgées, des personnes qui sont les femmes également, hein, sont victimes d'énormément de violences. On en parle beaucoup. Pour reprendre l'exemple des femmes au foyer, hein, si la maman s'occupe des enfants et qu'elle n'a pas d'emploi, elle est vulnérable d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les moyens de son indépendance. La violence économique, c'est aussi une forme de violence, hein, qui fait qu'une personne est dépendante, donc elle n'est pas en capacité d'être autonome et d'être parfaitement libre. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Même si là, il n'y a pas forcément de violence physique, il y a aussi cette violence, cette notion de violence morale qui est à prendre en compte. Les insultes également, hein, là on n'est pas dans le cadre de violence physique, hein, qui laisse des marques sur le corps, mais ça laisse bien sûr des fragilités importantes du point de vue psychologique. Toutes ces violences-là doivent être prises en compte et doivent être combattues.
À votre avis, que devez-vous faire si vous subissez ou que vous êtes témoin de la violence intrafamiliale ?
Alors, la première chose, c'est facile à dire, mais il faut le redire parce que c'est la seule solution pour s'en sortir. Il faut en parler. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas imaginer des conséquences trop fâcheuses. Alors, en parler, il y a des numéros. Hein, quand il y a une urgence extrême, il faut appeler la police ou la gendarmerie en faisant le 17. Il y a également un numéro dédié pour les femmes qui sont victimes de violences, donc le 3919. Il faut appeler, donc on est tout de suite pris en charge, on peut tout de suite s'exprimer et expliquer ce qui se passe, et après on est accompagné. Il faut savoir que maintenant, toutes les institutions, donc en fait toute l'organisation de l'État, on va dire, est de mieux en mieux formée pour traiter ces violences. Auparavant, ces violences, eh bien, elles restaient entre les quatre murs de la maison. Aujourd'hui, les choses ont changé, heureusement, et on a des personnes qui sont formées, que ce soit au niveau de la gendarmerie, de la police, dans les écoles également, avec les assistantes sociales, l'infirmerie, les conseillers principaux d'éducation, vie scolaire, enfin, tous les personnels sont formés pour écouter les élèves qui pourraient être victimes ou témoins de violences et pouvoir les accompagner. Il faut bien se dire que, cette formation qu'on a, elle est toujours dans le bien de l'élève. On vise toujours le bien-être de l'élève. Donc, parfois, effectivement, il faut juste dire les choses pour pouvoir mieux les analyser, mieux les comprendre. Parfois, la violence qui existe dans une famille, elle est simplement du fait de personnes qui n'arrivent plus à se comprendre, qui n'arrivent plus à se parler et qui ne s'expriment que par la violence. Donc, s'il y a un accompagnement qui est mis en place, il y a de bonnes chances que les choses s'améliorent. Pour les choses les plus graves, effectivement, la sécurité des personnes étant la priorité, il y a parfois des mesures d'éloignement ou des mesures de rupture qui doivent être prises. Mais tout ça, effectivement, sur un long terme, c'est vraiment pour assurer la sécurité des personnes. Donc, il ne faut pas avoir peur des conséquences. Il faut bien avoir en tête ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Il n'est pas normal, effectivement, d'entendre des insultes tous les jours dans le cadre de la famille. Il n'est pas normal de recevoir des gifles ou d'être privé de liberté. Donc, il faut mettre le curseur au bon endroit et surtout en parler. Donc, en parler, ça peut se auprès de n'importe quel adulte. Et puis ensuite, on est orienté vers des personnes qui sont plus spécialisées, plus formées pour bien analyser avec les personnes les situations et trouver des réponses qui sont adaptées à chaque situation.
Comment définirez-vous les violences intrafamiliales ?
Alors, je dirais que ça se passe au sein des personnes proches de la famille et qui sont des violences physiques et mentales aussi, morales. Voilà.
À votre avis, que devez-vous faire si vous subissez ou que vous êtes témoin de la violence intrafamiliale ?
Eh bien, il faut en parler tout d'abord aux proches, soit en faire part aux services concernés, alors plus particulièrement, alors je pense ici à la police, mais il doit y avoir aussi d'autres services.
Comment définirez-vous les violences intrafamiliales ?
Ce sont des violences qui ont lieu au sein de la famille, ça peut être un papa sur une maman sur un papa ou sur des enfants.
À votre avis, que devez-vous faire si vous subissez ou que vous êtes témoin de la violence intrafamiliale ?
Je crois qu'il y a un numéro vert, mais je le connais pas et c'est pas bien du tout. Et sinon, on peut toujours aller à la gendarmerie ou si on est enfant, on peut aller parler à un adulte du collège, par exemple.
Merci à nos trois camarades et aux personnes qui ont pris le temps de répondre aux questions. Mathis est allé à la rencontre d'Élise Peyre-Archambault qui s'occupe d'adolescents qui ont connu des violences intrafamiliales.
Bonjour Élise Peyre-Archambault. Pouvez-vous nous dire où vous travaillez ?
Bonjour. Alors, je travaille au Nouvel Hôpital de Navarre. C'est un hôpital psychiatrique, donc on s'occupe des souffrances psychiques. Je travaille dans une unité pour adolescents.
En quoi consiste votre travail ?
Alors, avant tout, je dois créer un lien de confiance avec les jeunes, pour qu'ils se sentent assez à l'aise pour pouvoir me parler de toutes leurs difficultés. Parce que malheureusement, quand on a des jeunes qui souffrent de violences intrafamiliales, ils ne sont pas à l'aise avec l'adulte, ils n'ont pas confiance. Et donc d'abord, avant tout, on doit leur prouver qu'on est là pour les aider. On peut avoir des abus sexuels, des maltraitances physiques et psychologiques qui vont avoir un impact essentiel sur leur vie d'adulte, des problèmes de construction, des comportements qui peuvent être à risque derrière.
Qu'aimez-vous dans votre métier ?
C'est assez gratifiant parce qu'on les voit évoluer très rapidement. En 2-3 ans, ils ont déjà réglé beaucoup de choses par eux-mêmes. Ils ont cheminé. Et donc, de pouvoir leur dire au revoir, de voir tout le chemin qu'ils ont parcouru, toutes les épreuves qu'ils ont surmontées, de voir leur sourire, pour certains, savoir où ils vont, pour d'autres, savoir que, bon, le chemin va continuer à être difficile, mais ils sont un petit peu plus armés.
Y a-t-il des aspects qui vous plaisent moins ?
Alors, ce qui est compliqué, c'est de travailler en tripartie avec l'enfant, ses parents et l'école. Des fois, on a l'adolescent qui n'est pas d'accord pour aller vers le soin. Donc là, c'est un petit peu un combat plutôt. On se bat contre l'adolescent pour qu'il comprenne l'intérêt du soin. Ça, j'aime pas trop.
Merci pour toutes ces réponses et au revoir.
C'est intéressant de savoir qu'il existe des structures qui peuvent aider les adolescents qui en ont besoin. Passons tout de suite à Lou qui nous a préparé une chronique sur l'affaire Jubilard. Cette affaire est tristement célèbre et met en lumière les drames qui se déroulent parfois dans le secret des foyers.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Jubilard, un tragique féminicide. Delphine Jubilard, infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Là, pour les autres, joviale et rigolote sont les mots utilisés afin de décrire celle-ci. Le couple était en instance de divorce, procédure initiée par Delphine Gibillard, entretenant une relation extra-conjugale avec un homme marié. Elle avait pris des mesures pour s'installer avec lui et un rendez-vous à la banque pour fermer à Cédric tout accès à son compte dans lequel il prélevait régulièrement. Le soir de sa disparition, elle et son mari, Cédric Gibillard, se disputaient violemment d'après leur enfant aîné, Louis, âgé de 6 ans. Des cris violents, des lunettes cassées et des coups refoulés. Après la disparition de Madame Gibillard, les enfants Gibillard sont allés vivre chez leurs grands-parents avec leur père. Maman est partie faire un tour en forêt, elle s'est perdue, avait raconté leur grand-mère pour les rassurer. Son fils Louis affirme « Cédric ne s'est pas occupé de moi ni d'Elia ». Dans cette phrase, on comprend la douleur de l'enfant en manque de son parent, mais aussi une rancune en l'appelant Cédric au lieu de papa. Cédric a été condamné à 30 ans de réclusion, chose très rare car le corps de son épouse n'a toujours pas été retrouvé. J'ai choisi ce sujet car c'était un sujet de conversation très fréquent avec mes parents quand on regardait la télé et que je trouvais que ce sujet méritait d'être raconté et d'être su.
Merci Lou, c'est une affaire qui nous rappelle l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Continuons avec Amalia qui va nous raconter l'histoire bouleversante de Sarah Abitbol.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Sarah Abitbol. C'est une patineuse artistique qui a maintenant 50 ans. Elle a remporté les médailles de bronze en championnat du monde à Nice, devenant ainsi la première française médaillée mondiale en couple depuis plusieurs décennies. Elle a participé au championnat du monde en 2003 à Washington. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a aussi écrit un livre, Un si long silence, dans lequel elle a parlé de ses violences sexuelles qu'elle a subies de la part de son entraîneur de patinage. Elle a été violée pendant son adolescence. Elle a voulu témoigner de sa souffrance et de sa solitude face à un entraîneur connu et respecté. Je trouve important de montrer que les violences peuvent se faire aussi à l'intérieur des clubs de sport et de la part des entraîneurs en qui nous avons souvent confiance.
Merci Amalia pour ce témoignage qui a libéré la parole de nombreuses femmes victimes d'agressions sexuelles dans le domaine du sport. Maintenant, c'est Clémence, ma chère présentatrice, qui va nous parler du CIDFF.
Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vais vous parler des CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Cette association a été créée en 1986. Elle remplit une mission d'intérêt général qui lui est confiée par l'État. Cela consiste à informer et à orienter les victimes de violences de manière confidentielle et gratuite. Pour mieux vous expliquer le rôle de cette association, j'ai interviewé Déborah Henry, la responsable du CIDFF d'Évreux, que je remercie de s'être déplacée au collège. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'exercer ce métier ?
Donc, je m'appelle Déborah Henry, je suis directrice du CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et pourquoi j'ai choisi d'exercer ce métier ? Alors, ce n'est pas le métier que j'ai choisi d'exercer, c'est plutôt la branche que j'ai choisie. Assez jeune, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin et envie d'être au service des autres. Et donc, j'ai cherché à trouver une branche dans laquelle je pouvais venir apporter ma pierre à l'édifice, un peu comme la théorie du colibri. Et donc, assez naturellement, le social est venu à moi. Et puis, je suis fille de commerçant. J'avais aussi ce besoin d'échange, la valeur travail, tout ça. Et donc, j'ai commencé dans une structure d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire d'aider des personnes à travers un emploi à reprendre une activité, à reprendre confiance en soi. Et puis, il y a un an et demi, il y a eu une opportunité de prendre la direction de l'association CIDFF. Et puis, bien encouragée, j'ai sauté le pas. Voilà.
À quel moment intervenez-vous au sein de l'association ?
Alors, en tant que directrice directrice du CIDFF, je suis au niveau de la gestion administrative, financière, opérationnelle aussi. Je dirige l'association en m'appuyant sur un conseil d'administration. Donc ce sont des bénévoles administrateurs qui me donnent les lignes stratégiques. On co-construit les lignes stratégiques parce qu'on est dans une structure quand même très, très dans la co-construction et en lien avec les besoins des territoires sur lesquels on intervient. Comme on intervient sur l'ensemble du territoire de l'Eure, tout le département de l'Eure, on a des liens avec les collectivités locales, avec les institutions, avec d'autres associations, et on travaille conjointement dans des solutions qu'on met en place pour les personnes que nous accompagnons.
D'accord. Et quelles seraient vos suggestions pour améliorer le droit des femmes et des familles ?
Ça, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Pour moi, bah, il faut continuer quotidiennement à sensibiliser, à former les personnes sur l'égalité filles-garçons, à mettre en place des événements, à rencontrer bah, des jeunes, comme on a pu le faire nous, mais comme on, voilà, on le fait assez régulièrement. C'est toutes les tranches de la société, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer forcément que sur les jeunes, il faut se concentrer sur la totalité de la société et par touche venir faire réfléchir les gens en fait, à la situation de l'égalité femmes-hommes, à la question des violences, à la question de la place de la femme, parce que très clairement, à travers l'histoire, la place de la femme elle a évolué. C'est pas fait pour me déplaire du tout, au contraire. Mais voilà, la place, elle a évolué. Et en fait, c'est... je suis pas partisane de l'homme contre la femme, pas du tout. Ou de la femme contre l'homme, pas du tout. Je suis partisane du fait qu'on a toutes et tous une place à avoir et qu'il faut respecter la singularité et l'individualité des personnes. Mais que ça soit... Parce que là, on parle de la place des femmes, mais en fait, c'est la place de chacun dans la société. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit une personne non-genrée, peu importe, en fait. L'important, c'est que chacun, dans sa particularité, on puisse trouver notre place. Voilà. Après, il y a plein de choses qui sont encore à mettre en place pour aider notamment les femmes victimes de violences. Il faudrait plus de lieux d'hébergement. Il faudrait que la justice puisse répondre plus rapidement aux problématiques rencontrées. Mais c'est aussi, d'un point de vue plus large, la santé. Il faudrait que l'accès aux soins soit plus simple et que les maladies, on va dire... qui touchent les femmes, type l'endométriose ou des choses comme ça, soient pris en charge plus rapidement, plus facilement, etc. L'endométriose, il y a encore ne serait-ce que 10 ans ou 15 ans en arrière, on n'en entendait quasiment pas parler. Ça va aussi sur les produits de première nécessité, type les protections périodiques, qui coûtent quand même relativement très très cher. Et quand, il y a toute une partie de la population qui ont des difficultés à y accéder. Ça passe par l'égalité des salaires. Je pense que t'es pas sans savoir qu'on vient de passer le cap où, théorique, hein, mais où en fait les femmes ne sont plus entre guillemets payées. Enfin, c'est dans le sens où en fait il y a des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes qui font que il faudrait que tout ça soit gommé. Et pour ça, il faut que politiquement, mais aussi sociétalement parlant, tout ça soit porté. Pour moi, ce n'est pas juste aux politiques de faire bouger les choses, mais c'est bien à la société entière de faire bouger les choses. On a toutes et tous notre part à jouer, femmes comme hommes.
Et pour conclure cette interview, quel serait le message que vous souhaiteriez passer à nos auditeurs et auditrices ?
De croire en soi, ça c'est hyper important, de travailler la confiance en soi, l'estime de soi. On est toutes et tous capables de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. De ne pas se limiter, de ne pas avoir peur de ne pas y arriver. Alors en vrai, c'est normal hein, d'avoir ces peurs-là, mais d'essayer de contenir cette petite voix qui, des fois, peut nous empêcher d'avancer et de se dire « je vais essayer ». Parce qu'en fait, moi, j'ai une phrase que j'adore, c'est « quand je me plante, je pousse ». Et en fait, c'est une petite phrase que je me répète régulièrement pour ne pas avoir peur d'essayer. Si j'essaye et que je rate, je vais quand même apprendre quelque chose de mon échec, alors que si je n'essaye pas, je reste là où je suis et je n'avance pas.
Je vous remercie beaucoup, Déborah. C'était super intéressant.
Avec plaisir.
À très bientôt.
À bientôt.
Merci, Clémence. Maintenant, je sais que le CIDFF est un lieu d'écoute, d'aide et de reconstruction. Adèle, c'est à toi de jouer. On te laisse interviewer Madame Duchâteau, chef de chorale du collège, et Thomas, un élève de la chorale.
Que s'est-il passé le 22 novembre à la salle Bacri ?
Le 22 novembre à la salle Bacri, avec l'option chorale, nous avons participé à un concert dans le cadre de la semaine contre les violences intrafamiliales.
Quelle chanson avez-vous interprétée ?
Alors, nous avons commencé par faire une chorégraphie sur Survivor, interprétée par Tu Wei. Nous avons poursuivi avec trois élèves solistes de la chorale, qui chantent magnifiquement bien, sur I Will Survive, de Gloria Gaynor. Et ensuite, nous avons poursuivi sur Laissez-moi danser, version Isia et Ibrahim Malouf, pour finir avec Balance ton quoi, de Angèle.
Avez-vous chanté avec d'autres chorales ?
Oui, nous avons chanté avec la chorale périscolaire de Victor Hugo et la chorale L'écho du donjon de Conchandouche.
Qu'avez-vous ressenti lors de cette soirée ?
Alors, pour prendre la parole des élèves, je pense qu'ils ont ressenti du plaisir déjà, tout simplement pour avoir participé à ce concert. Et puis moi, j'ai été très fière de mes élèves de pouvoir... Nous sommes unis pour cette cause qui est importante et je pense que tout le monde a pris du plaisir pour ce concert.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Adèle et merci Madame Duchâteau et Thomas d'avoir répondu présent à notre invitation. Autour de Titouan, notre présentateur préféré, qui va nous lire un poème poignant.
Dans quelques instants, je vais vous lire un poème, mais avant, un peu de présentation. Ce poème œuvre contre les violences intrafamiliales. Il a été écrit par Corinne Molina. C'est une écrivaine française née en 1970 à Lyon. Elle écrit des poèmes, des chansons et joue également du saxophone. Voici le poème. Je me souviens, m'as-tu vraiment aimé ? Je me souviens nos premières années. Je me souviens ta tendresse, je me souviens tes caresses. Je me souviens ton sourire et ta chaleur. Combien tu me faisais rire, grande était ta douceur. Je me souviens ce jour, tes premiers cris. Je me souviens ce jour, mon corps meurtri. Je me souviens ce jour, ta tendresse devint violence. Je me souviens ce jour, tes caresses devinrent souffrance. Je me souviens le silence, je me souviens l'obscurité. M'as-tu vraiment aimé ? J'aime à le penser. J'ai choisi ce texte car on comprend bien la souffrance de certaines familles. Chacun pourrait dire qu'il est touchant. Au début, on sent les premiers mois où ils se sont rencontrés. Puis petit à petit, on ressent la peur, la tristesse et le désespoir avec la violence qui est arrivée.
Merci Titouan pour ce joli poème qui nous rappelle la douleur, mais aussi l'espoir de celles et ceux qui osent parler. Pour finir, Alissa, Eden et Loane nous proposent un petit quiz. Je ne vous en dis pas plus.
Bonjour à toutes et à tous.
Nous allons tester vos connaissances sur les violences faites aux femmes.
Certaines étaient dans l'émission. Nous espérons que vous avez été attentifs.
En quelle année le viol est-il devenu un crime en France ? 1. 1997. Réponse 2. 1918. Réponse 3. 2000. C'était la réponse 2.
Est-ce que le viol est puni par la loi ? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, juste un avertissement. Réponse 3, oui, avec une peine de 15 ans de prison prononcée et une dette de 150 000 euros. C'était la réponse 3. Oui, avec une peine de 15 ans de prison prononcée et avec une dette de 150 000 euros.
Quel numéro appeler dans ce cas ? Réponse 1, 3919. Réponse 2, le 17. Réponse 3, le 18. C'était la réponse 1, le 3919.
Quelle patineuse dont on a parlé dans l'émission a écrit un livre sur le viol qu'elle a subi par son entraîneur ? Réponse 1, Surya Bonali. Réponse 2, Sarah Abitbol. Réponse 3, Gabriela Papadakis. C'était la réponse 2, Sarah Abitbol.
Quelle femme a été très médiatisée récemment pour une affaire de viol par conjoint ? Réponse 1, Rosa Parks. Réponse 2, Louise Michel. Réponse 3, Gisèle Pellicot. C'était la réponse 3, Gisèle Pellicot.
Quelle date est consacrée aux violences faites aux femmes ? Réponse 1, 25 novembre. Réponse 2, 12 août. Réponse 3, 16 juin. C'était la réponse 1, le 25 novembre.
Merci les filles pour ce quiz instructif. Alors, chers auditeurs, quel a été votre score? N'hésitez pas à venir nous le dire. Un grand merci à nos invités pour leurs paroles précieuses. Nous avons une dernière surprise. Madame Lacampagne Crochet, adjointe au maire de Conches et conseillère départementale, nous fait le plaisir d'avoir assisté à l'émission. Madame, on sait que vous œuvrez beaucoup pour cette cause. Nous vous laissons la parole pour clore cette émission.
Merci beaucoup, merci déjà pour votre invitation. L'année dernière déjà, vous nous aviez fait l'honneur de nous inviter, ma collègue adjointe au maire Sophie Lemaize et moi-même, dans le cadre d'une émission radio dédiée aussi aux violences intrafamiliales. Vraiment merci aussi et surtout pour l'engagement que vous menez au Collège de Conches sur ces sujets qui concernent les violences. Alors pour revenir à cette semaine de sensibilisation organisée par la commune de Conches depuis 4 ans maintenant, elle est à destination de plusieurs publics, déjà à destination des scolaires, des collégiens, bien sûr, des lycéens, des élus. Par exemple, hier soir, nous avions la présence de Xavier Hubert, qui est vice-président du département de l'Eure, en charge de la sécurité de la délinquance, qui est intervenu donc auprès des 25 maires des communes de la communauté de communes du Pays de Conches. Et puis, nous avions ce matin aussi une formation qui était animée par la cause des enfants avec le CIDFF et la VED ACJE pour nos agents des collectivités, communes et communautés de communes, parce que c'est aussi important de les sensibiliser puisqu'ils reçoivent aussi du public. Et puis, bien sûr, on a proposé des événements pour le grand public, notamment le week-end dernier, avec des événements forts dont j'ai envie de dire quelques mots, notamment des actions culturelles auxquelles certains d'entre vous ont pu participer avec notre agent Dylan des Microfolies, avec une animation sur Niki de Saint-Phal, qui était une grande artiste qui a été victime d'inceste dans son enfance et qu'elle a révélé dans son livre en 1994, Mon secret. Il y a aussi eu la rencontre avec une autrice rouennaise, Sophie Demange, à la médiathèque, vendredi soir. Il y avait du public au rendez-vous, elle nous a présenté son livre, Les Bouchères. Alors ça se lit vraiment comme un roman policier, c'est a priori léger et en réalité, ça parle du sujet des violences faites aux femmes. Et puis bien sûr, alors tout à l'heure vous en avez parlé, mais alors très très grand moment du week-end quand même, et je tiens vraiment à vous féliciter le Collège de Conches, les chorales unies contre les violences, avec la chorale de l'école Victor Hugo, la chorale du collège et la chorale Les Échos du Donjon. Et là c'était vraiment vraiment un grand moment dans la salle Bacri, avec une salle complètement, complètement remplie. Donc bravo. Alors comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, aujourd'hui c'est une date très symbolique, c'est le 25 novembre 2025. Donc 25 novembre, c'est la journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je ne peux pas m'empêcher que de vous rappeler quelques chiffres. Je crois qu'il faut vraiment les rappeler, ces chiffres. C'est une femme sur 10 victime de violences conjugales. C'est une femme qui meurt tous les deux jours. Le 20 novembre, c'est la journée où a commencé notre semaine de sensibilisation. Et bien le 20 novembre, donc la semaine dernière, il y a eu 4 femmes qui sont mortes en France des coups portés de leur conjoint. Et puis bah, chaque année, le chiffre malheureux d'une centaine de femmes qui meurent en France sous les coups de leur conjoint. Et quand ces femmes, elles ne meurent pas, ce sont des vies terriblement abîmées avec des reconstructions qui sont particulièrement difficiles. Donc merci pour la qualité de votre émission, merci pour l'engagement que vous avez. C'est important aussi de parler de l'actualité, vous avez parlé de l'affaire Jubilard, de l'affaire Pellicot, parce que comme vous le dites en début d'émission tellement bien, parler c'est déjà un peu aller vers une solution. Vous avez parlé aussi des violences sexuelles dans le milieu sportif avec l'affaire Habitbol. À Conches, il y a plusieurs années, il y a eu des abus sexuels d'un entraîneur sportif sur plusieurs adolescents, un ex-champion de tir à l'arc qui a été jugé en 2019. À Conches, il y a eu un drame terrible de la petite Lisa qui a été victime d'infanticide. Elle avait 3 ans. La commune ne l'oubliera pas, c'est une blessure vraiment profonde. Conches a ses 5000 habitants. On est en milieu rural, il fait bon vivre. Et pourtant, ces drames, ils peuvent avoir lieu partout, tout le temps. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors mobilisons-nous ensemble pour vaincre ces fléaux. Car seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un proverbe africain que j'apprécie particulièrement. Il est encore long, le chemin, il est encore difficile, mais nous vaincrons. Et je pense vraiment sincèrement pouvoir vous dire que vous, vous êtes porteur d'espoir, vous êtes l'avenir. Nous, nous menons des combats d'élus, des combats de femmes, des combats d'adultes. Mais en tout cas, vous, garçons et filles, vous êtes là, présents pour poursuivre ces combats. Et puis, je voudrais terminer par aussi une citation que j'aime beaucoup. Enfin, c'est plutôt un extrait d'une œuvre de Samuel Beckett, En attendant Godot. « À cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous, qu'on le veuille ou non. » Voilà, donc... gagnons, donnons du sens à nos existences, à notre passage sur Terre, et menons un combat pour l'égalité, contre les violences. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre engagement.
Merci beaucoup, Madame La Campagne-Crochet. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, ensemble, brisons le silence.
Ensemble, brisons le silence et aidons à reconstruire des vies. Merci encore pour votre écoute et prenez soin de vous et des autres.
À très bientôt.
Bientôt.